Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme se saisit de la question des prélèvements non consensuels par la COSESSONA sur les salaires des enseignants et met en place une équipe de 5 personnes pour enquêter sur la probable adhésion forcée des enseignants à cette coalition. Et certains patients utilisant la carte d'assurance médicale, CAM, éprouvent des ennuis à pouvoir régler leurs factures quand ils sont référés à certains hôpitaux de la ville de Bujumbura à partir de l'intérieur, alors que leurs cartes ne sont pas prises en compte. Vous entendrez ceux de l'hôpital Roi Khaled qui se sont entretenus ce vendredi avec notre rédaction. Et tout détenteur de passeport biométrique devra attendre son expiration avant de se procurer celui de la communauté est-africaine qui durera 10 ans. Vous aurez d'autres précisions sur les catégories de Burundais pouvant avoir leur passeport étant à l'étranger. Et dans la chronique environnement, un professeur d'université nous dira que la récolte risque de ne pas être bonne pour la pomme de terre et les oignons notamment, parce que ne résistant pas à une forte pluviométrie comme on le remarque en cette saison culturelle. Ah, voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Bonjour. Tout détenteur de passeport biométrique devra attendre son expiration avant de se procurer de celui de la communauté est-africaine pour 10 ans. Éclaircissement du commissaire général des migrations. Dans une interview exclusive accordée à la radio Isanganiro ce jeudi, le commissaire de police Jimmy Hatungimana a précisé en outre que les Burundais se trouvant à l'étranger et qui peuvent avoir les passeports sont répartis en 3 catégories, à savoir les étudiants boursiers de l'État, les ambassadeurs et les malades incapables de voyager. Suivez-le.
Les membres de la communauté est-africaine, nous sommes les premiers à avoir mis en place le document hautement sécurisé. Alors, ce document hautement sécurisé, il vient de céder la place à un autre document de la communauté. Mais je vous dis que, à travers le ministère des Relations extérieures, nous avons sorti une note verbale pour faire savoir que le document de voyage, l'ancien document de voyage électronique, va prendre cours légal jusqu'à son expiration. Et ils doivent se tranquilliser. Ce document, il remplit toutes les conditions exigées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'expiration, c'est bien marqué dans le passeport. Et à la fin, ils doivent déposer ces passeports pour entamer les autres. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes nous a instruit à travers les recommandations issues du Conseil national de sécurité qu'il y a 3 catégories de gens qui doivent recevoir les documents de voyage à distance. Il y a la première catégorie, le personnel des ambassades. Nous avons des ambassades accréditées à l'étranger. Ce personnel peut recevoir les documents de voyage étant à l'étranger. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des étudiants boursiers du gouvernement. Ces étudiants, à travers le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, ce ministère, il doit recevoir ces demandes de ces étudiants et les amener auprès de notre ministère pour la validation. Et nous, on est là pour exécuter les ordres de notre ministère. La troisième catégorie et la dernière, c'est la catégorie des gens incapables de voyager parce qu'ils sont malades et aussi ils doivent présenter des documents comme quoi ils sont malades. Et à partir de là, le ministère nous envoie toute la documentation en rapport avec cette personne malade. En fin de compte, nous les confectionnions les documents de voyage comme nous avons une base de données riche en ces documents.
Le commissaire de police Jimmy Hatungimana. Le prix du ciment varie au jour le jour au marché de Muyinga, en violation du prix officiel de 24 500 francs burundais par sac de ciment. Les commerçants font une majoration d'au moins 4 000 francs burundais par sac. Le conseil économique du gouverneur de la province de Muyinga affirme que l'administration essaie de faire respecter le prix officiel, mais que des spéculateurs profitent de la difficulté du manque de traçabilité dans le circuit d'approvisionnement à partir de l'usine de la province Cibitoke jusqu'au marché de Muyinga. Dieudonné Nzeyimana.
Au marché de Muyinga, un sac de ciment dit Buseko est vendu à raison de 28 500 francs par sac. Les vendeurs parlent de promotion il y a une semaine. Le même sac Irak s'achetait à 32 000 francs burundais. Violation du prix officiel de 24 500 francs, souvent communiqué par l'autorité. Nous demandons aux commerçants s'ils savent qu'ils violent la réglementation. Certains répondent par l'affirmative, révélant avoir d'ailleurs été interpellés par la police suite à ce problème. Le prix d'approvisionnement est élevé, ça doit se répercuter sur le prix de vente, justifie des commerçants prêts à délaisser le commerce du ciment Pousseco et commercialiser celui importé de la Tanzanie. La commercialisation du ciment a été évoquée dans une réunion du comité mixte de sécurité il y a un mois. Pourquoi ce commerce pose toujours problème à une administration qui a pu maîtriser le circuit d'autres produits comme le carburant et le sucre? Baden de Jumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, indique que l'autorité essaie de faire respecter la loi. Des soucis restent. On ne maîtrise pas les quantités coulées sur le marché de Muyinga. Muyinga, Dieudonné, Zeimana, Radio Isanganiro.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Certains patients utilisant la carte d'assurance médicale CAM et qui sont référés à certains hôpitaux de la ville de Bujumbura se lamentent que leurs cartes ne sont pas prises en compte. Ceux qui se sont entretenus avec la rédaction ce vendredi disent qu'ils ne sont pas en mesure de régler leurs factures tant que leurs cartes d'assurance maladie ne sont pas acceptées. Le Centre d'expression des malades au Burundi, Semabou, exprime la même préoccupation sur ce sujet. Sylvain Hawanawakiza, son porte-parole, demande au président de la République de prendre cette question en main pour que cette population puisse se faire soigner. On l'écoute.
Nous avons reçu des doléances de pas mal de malades, de patients qui sont hospitalisés. Je dirais qu'ils sont emprisonnés pour le moment. Les factures n'ont pas été faites d'une façon correcte. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu s'acquitter de la dette de ces factures. Le Semabou est au courant de cette situation, mais le Semabou aimerait d'abord remercier les médecins qui ont reçu ces gens, ces patients, mais nous déplorons, le Semabou déplore le comportement des chargés de finances qui n'ont pas pu faire des factures pour que ces gens puissent rentrer. Sur cette situation, le Semabou demande au ministère et à la santé de la population dans ses divisions, mais aussi le président de la République, de voir comment aider cette population que je dirais vulnérable. Ce comportement s'observe dans des hôpitaux de la mairie de Bujumbura. Je citerai entre autres Roi Khaled.
Radio Isanganiro, chronique environnement.
On passe à la chronique environnement. La récolte ne sera pas bonne pour certaines plantes dans cette saison culturelle suite à une forte pluviométrie d'après Denis Van de Schubgenge, professeur d'université. Selon lui, même si certaines plantes comme la patate douce résistent aux pluies, d'autres comme la pomme de terre et les oignons sont sensibles à une forte pluviométrie. Cette chronique environnement est signée Christella Nizigama.
La saison culturelle a commencé avec le mois de septembre. Elle va se clôturer au mois de janvier. Selon professeur Denis Van de Schubgenge, la récolte pour certaines plantes peut ne pas être bonne suite aux fortes pluviométries.
Ce ne sont pas toutes les cultures qui sont sensibles à une grande pluviométrie. Il y a des cultures qui sont des cultures d'ailleurs de rente, de ressources et de revenus, mais qui sont très sensibles à cette pluviométrie. C'est notamment la culture de pommes de terre, la culture d'oignons, la culture du haricot, nous avons la culture de tomates. Ce sont des cultures qui aident la population à recevoir de l'argent pour s'occuper d'autres biens, d'autres fonctions de famille. Et là, on attend une mauvaise récolte de la première saison pour ces cultures.
Pour ce professeur d'université, d'autres cultures, comme la patate douce, résistent à une forte pluviométrie.
Il y a des cultures quand même qui résistent à la pluviométrie, c'est notamment la culture de patate douce, la culture de manioc, la culture de crocase. Ce sont des cultures qui quand même n'ont pas été touchées par cette pluviométrie. J'ajouterai aussi la culture du maïs, même si certains disent qu'il y a eu une mauvaise végétation. À mon avis, ce n'est pas la cause de la pluviométrie, ça serait beaucoup plus manque d'éléments nutritifs dans les sols. Sinon, la qualité de maïs dans les zones de haute montagne, on remarque que la récolte sera bonne. Est-ce que ça s'étend sur des saisons? On attend la récolte au mois de mars, la récolte sera bonne pour ces cultures-là.
Ces fortes pluviométries n'emportent pas seulement les plantes, mais aussi les sels minéraux nécessaires à leur croissance. Selon professeur Bandushubwenge, certaines régions naturelles ont été touchées, notamment le Mugamba, Kirimiro et Bututsi. Il y aura des conséquences, comme le manque de moyens pour acheter les intrants de la saison culturelle B.
La première conséquence, c'est la famine. Il y aura un rendement très faible par rapport à ce qu'on comptait avoir pour ces cultures. Et ce sont des cultures dorantes. On va manquer à se nourrir, mais aussi on va manquer de l'argent dans les familles. Est-ce que les ménages reçoivent des fonds grâce à la vente de ces produits sur le marché? Ce sont des critères dorantes. Maintenant, avec la saison B qui va commencer, il y aura peu de moyens pour acheter les intrants pour les préparatifs de la deuxième saison culturelle qui va commencer avec le mois de février.
La saison culturelle A aura des répercussions sur la saison culturelle B. Alors, comment préparer la deuxième saison culturelle? Denis Bandushubwenge nous en parlera dans la prochaine chronique environnement.
Dans la suite de ce journal, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme met en place une équipe de 5 personnes pour enquêter sur une probable adhésion forcée des enseignants à la COSESONA. Cette équipe devrait produire son rapport dans 7 jours. Et dans une conférence de presse ce vendredi, Sixte Vignini Muraba, président de cette commission, a reconnu avoir été saisi par des enseignants sur le cas du prélèvement non consensuel des sommes d'argent sur les salaires des enseignants par la COSESONA. Il affirme être au courant des arrestations des leaders des syndicats CGPBOU et CPDUC et rappelle aussi que l'adhésion à l'association est volontaire. Elinibel Nibigira.
Droit à la liberté d'association et un droit et non...
Au cours de cette conférence de presse, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme rappelle que le droit d'association est un droit et non un devoir. Sixte Vignini Muraba reconnaît avoir été saisi par les enseignants qui se plaignent contre l'adhésion forcée à la coalition des syndicats des enseignants COSESONA. Toutefois, cette commission dit en train de mener ses enquêtes pour infirmer ou confirmer ses accusations.
Depuis quelques jours, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme continue à recevoir des plaintes de la part de certains enseignants qui indiquent qu'ils sont contraints d'adhérer par force à la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale, COSESONA en sigle. La CNIDH n'a pas encore vérifié ces allégations pour savoir si elles sont fondées ou pas.
En effet, la CNIDH annonce la mise en place d'une équipe de 5 personnes pour enquêter sur les allégations contre la COSESONA, une équipe qui va dresser le rapport en dehors 7 jours, précise Sixte Vignini Muraba, président de la CNIDH.
La CNIDH vient de constituer une équipe composée de 3 commissaires et 2 cadres de la commission pour mener des investigations sur cette affaire et présenter un rapport dans un délai de 7 jours. La même équipe continuera à suivre de près l'évolution de cette affaire.
Cette commission affirme également être au courant des arrestations des présidents des syndicats SPEDUC et CGPBOU qui s'étaient opposés à l'adhésion à la COSESONA.
Les gens qui auraient été arrêtés pour question d'enquête, on est informés de la situation et c'est pour cette raison qu'on a mis sur place une commission pour faire le suivi. Si c'est pour demander, avoir des éclaircissements pour savoir exactement quels sont les motifs derrière cette arrestation.
Sixte Vignini Muraba rappelle aussi que la constitution burundaise et le code de travail garantissent la liberté d'adhésion ou de quitter l'association.
Elinibel Niwigira. Le parti CNL trouve qu'il y a encore quelques cas d'intolérance politique à quelques mois des élections. Terence Manirambona, porte-parole de ce parti, parle de leurs militants malmenés ou emprisonnés arbitrairement. Il appelle d'autres formations politiques au respect du code de conduite signé récemment à Kayanza. Suivez Terence Manirambona, porte-parole du CNL, au micro de Fidèle d'Antoine Savimana.
Nous observons encore une fois un climat d'intolérance politique à l'endroit des militants du parti CNL, des emprisonnements, des arrestations arbitraires. Il y a des violences physiques, des montages grotesques à l'endroit des responsables et des militants du parti CNL un peu partout dans le pays. Il y a des mesures arbitraires des autorités de certaines autorités administratives. Il y a aussi des intimidations, des attaques ciblées à l'endroit de nos militants dans les ménages ou en cours de route. Par exemple, dans la province de Ngozi, il y a une mesure restrictive qui a été prise par le gouverneur disant que les militants du parti CNL ne peuvent pas aller soutenir les militants d'une commune à l'autre ou bien d'une colline à l'autre. Et aujourd'hui, on dénombre plus de 80 militants du parti CNR qui sont emprisonnés dans, consécutivement à cette mesure. Dans la province de Kayanza, nous avons plus de 43 membres qui sont en prison. Il y a aussi 5 militants du parti CNR qui ont été arrêtés hier dans la commune de Nyamiraba et on les accuse d'avoir tenu une réunion illégale alors qu'ils ont été arrêtés en cours de route.
De son côté, le parti CNDD-FDD se dit satisfait du pas franchi en matière de tolérance politique. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général de ce parti, fait savoir que c'est un signe de maturité politique des Burundais. Suivez Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD. Il est au micro de Charles Makoto.
Il y a une très grande amélioration. Avant, quand il y avait les élections, c'était tendu, les gens étaient tendus. Mais aujourd'hui, voilà qu'au moment où on prépare les élections, même les réfugiés continuent à rentrer. C'est-à-dire, ça montre très bien que nous préparons les élections dans un climat de confiance. Donc, c'est très calme. Il n'y a pas d'horaire dans les villes. Alors qu'avant, c'était dans les villes où il y avait effectivement des haies entre les jeunes. Parce que je peux dire que les politiciens n'étaient pas encore mûrs au niveau des principes démocratiques. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas conseiller les jeunes sur comment se comporter devant les autres citoyens. Mais maintenant, ça se montre très bien que les citoyens burundais sont mûrs. S'il y a des incidents aussi, ce qui est intéressant est que l'administration, la police et la justice est toujours là pour appréhender ceux qui commettent des fautes. Nous voyons que maintenant, les fautes qui sont commises ne sont pas interprétées politiquement. Il n'y a pas de globalisation. Celui qui commet une faute est punie personnellement parce que la faute est individuelle.
Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD. Les caféiculteurs demandent au gouvernement de fixer le prix du café pour la campagne 2020-2021 qui s'annonce. Dans une réunion avec les représentants du gouvernement, ils ont exprimé le souhait de voir mise en exécution la stratégie du gouvernement visant son retour dans la filière café pour que la campagne puisse mieux se dérouler.
Actualité internationale.
63 terroristes et 25 personnes ont été tuées ce jeudi 9 janvier lors de l'attaque du camp militaire de Tchinagoder au Niger. C'est à 10 kilomètres de la frontière malienne selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense. Cette attaque meurtrière intervient un mois après celle des djihadistes du camp Dinat dans le même secteur qui avait fait 71 morts. Les soldats de Tchinagoder, qui ont toujours en mémoire la perte de leurs 71 camarades à Inat, ont opposé une farouche résistance et ont pu donner l'alerte par radio pour demander un appui aérien. Et la chasse française est intervenue très vite, dit-on, sur demande de l'état-major. Et en 15 minutes, les Mirage 2000D de Barkhane étaient à la verticale de Tchinagoder, située à 290 km au nord de Niamey. Quant aux drones américains, ils ont effectué de frappes importantes. La première sur une colonne de véhicules terroristes en fuite et rattrapée à la frontière malienne. La seconde sur un groupe de motos des djihadistes. Et plus proche de chez nous, conditions de détention déplorables dans les prisons en République démocratique du Congo. Et c'est l'ONG congolaise Fondation Bill Clinton pour la paix qui tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce les conditions de détention, notamment dans la prison de Makala à Kinshasa. Cette fondation dénonce le manque de nourriture et des soins médicaux appropriés qui auraient été à la base du décès d'au moins 17 prisonniers dans cette prison. Selon des sources carcérales citées par le correspondant de la BBC sur place, Makala n'a pas reçu depuis 2 mois sa dotation en ration alimentaire destinée aux incarcérés. Le vice-ministre de la Justice a promis de mobiliser progressivement plus d'argent pour juguler le manque de vivres et de médicaments pour les pensionnaires de la prison centrale de Kinshasa. Cette prison de Makala héberge plus de 8000 détenus, dont 94% attendent encore leur jugement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les grandes articulations. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme se saisit de la question des prélèvements non consensuels par la COSESONA sur les salaires des enseignants et met en place une équipe de 5 personnes pour enquêter sur la probable adhésion forcée des enseignants à cette coalition. Et cette équipe devrait produire son rapport en une semaine. Certains patients utilisant la carte d'assurance médicale CAM référé de l'intérieur à Bujumbura éprouvent des ennuis à pouvoir régler leurs factures quand ils sont référés à certains hôpitaux de la ville de Bujumbura alors que leurs cartes ne sont pas prises en compte. Et puis Tout détenteur de passeport biométrique devra attendre son expiration avant de se procurer de celui de la communauté est-africaine qui durera 10 ans. Et vous avez eu d'autres précisions sur les catégories de Burundais pouvant avoir leur passeport à distance. C'est notamment les étudiants boursiers de l'État, les ambassadeurs et les personnes malades ne pouvant pas voyager. Dans la chronique environnement, vous l'avez suivi, un professeur d'université nous a dit que la récolte risque de ne pas être bonne pour la pomme de terre et les oignons surtout, parce que ne résistant pas à une forte pluviométrie, comme on la remarque en cette saison culturelle. Ah. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal avec intérêt. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. J'ai bénéficié de la complicité technique d'Eric Ouimana. Un bon après-midi.